Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des usagers qui se rassemblent pour trouver une parade à la grève dans les transports. Des comptes spécifiques sur les réseaux sociaux connaissent un pic de fréquentation. Reportage à suivre. L'actualité aujourd'hui sur les réformes des retraites, c'est aussi des drapeaux de la CFDT dans les rues et des enseignants très mobilisés qui ont du mal à croire aux propositions du gouvernement. Explication de notre spécialiste éducation. À suivre également Boeing qui suspend la construction de ses 737 MAX après 9 mois de blocage au sol. Le bilan annuel de Reporters sans frontières, 49 journalistes tués en 2019. Nous serons au Mexique. Et enfin, la galerie des Gobelins fête Noël à Paris. Le mobilier national, ses tapisseries, ses fauteuils grand siècle.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le député et vice-président du parti Les Républicains. J'ai nommé Guillaume Pelletier.
France Inter.
Quand Twitter, Sébastien, permet d'éviter les galères.
Twitter pour mieux s'orienter et se faufiler dans les couloirs du métro. Au 13e jour de grève dans les transports, ça peut être très utile. D'autant que cette journée s'annonce plus dure que les précédentes pour cause d'appel à la manifestation. On y reviendra. Comme chaque jour, la SNCF et la RATP ont envoyé hier leurs prévisions de trafic. Et comme chaque jour, cela se limite à des chiffres. Un TGV sur 4, un Transilien sur 5, 3 TER sur 10 et 8 lignes de métro. Trop fermé à Paris. Mais ces chiffres recouvrent des réalités très contrastées. Une ligne peut être bondée et dangereuse quand une autre est très praticable. Et c'est justement pour partager ce genre de détails plus précis qu'un collectif d'usagers de l'Ouest parisien s'est créé. L'association Plus de Train relaye tous les jours des informations de terrain. Rémi Brancato.
Chaque matin avant de prendre le train pour partir d'Achères et chaque soir avant de quitter son bureau à la Défense, Virginie vérifie son fil Twitter, plus efficace qu'une application pour les infotrafics.
Souvent, les trains sont retardés, supprimés, c'est pas affiché sur les applications, c'est les usagers qui nous le disent en direct. Par exemple, j'ai envoyé un tweet, c'est une usagère qui m'a répondu.
Des échanges hyper réactifs entre usagers via les comptes de l'association d'usagers plus de trains. Les internautes s'échangent difficultés ou bons plans, comme Quentin, étudiant à Paris, qui habite en banlieue.
J'en vois pas mal qui les préviennent, par exemple, que des quais sont surchargés à tel endroit, etc. Et puis ils relaient l'information instantanément sur leur compte, ce qui aide beaucoup.
Depuis le début de la grève, l'association compte 30% d'abonnés en plus sur les réseaux sociaux.
On n'a jamais connu une telle hausse de nombre de gens qui nous donnent des témoignages.
Arnaud Bertrand, son président.
Ben voilà, à Viroflay, à 7h20, tout le monde est rentré dans les rames. Ça nous permet de dire le soir, ça peut être une bonne solution pour vous demain.
Car pour lui, aucune application et aucun site ne sont assez complets.
La RATP communique juste sur ses lignes, la SNCF communique juste sur ses lignes et cette communication elle est souvent assez incomplète. C'est quelque chose de qualitatif ce qu'on fait, hein. D'ajouter en plus ce qu'ils ne font pas et qu'on pense qu'ils devraient faire, qui est dans quelles conditions vous allez voyager.
Alors chaque soir, Plus de Train publie son propre bulletin trafic, un condensé d'infos officielles et d'expériences concrètes des quais de gare.
Rémi Brancato. Ajoutons sur cet aspect l'information qu'attendent des dizaines de milliers de Français à 4 jours des vacances de Noël. Auront-ils un train pour ce week-end? La SNCF doit dévoiler ce matin le calendrier des trains grandes lignes qui circuleront jusqu'à dimanche prochain. Ces voyageurs rencontrés à Aix-en-Provence, eux, ne cachent pas leur lassitude. Ils aimeraient bien que les grévistes fassent un peu une pause pour les fêtes.
Les fêtes, les vacances, les gens qui ont fait des réservations, qui ont loué, je trouve ça inadmissible. Le droit de grève, d'accord, mais il faut savoir s'arrêter.
Les alternatives, ça serait en dernier recours la voiture, mais bon, c'est pas pratique. On se démerdera.
Personnellement, je trouve ça bête et méchant. Pour moi, c'est prendre des gens en otage. Les fêtes en famille, c'est sacré. C'est dommage d'en arriver à un point comme ça.
Moi, j'ose espérer qu'ils vont faire un geste pour les fêtes de fin d'année, donc je reste optimiste. J'espère que les gens vont être un peu humains, parce que prendre en otage aux fêtes de fin d'année, ou les famille se rassemble ou c'est un bon moment. Ça me semble un peu dur.
Des propos recueillis par France Bleu Aix-en-Provence.
13e journée de grève, Sébastien, mais aussi 3e round entre les syndicats et le gouvernement.
3e journée de manifestation en effet aujourd'hui dans toute la France avec un objectif à dépasser pour les syndicats. 800 000 personnes, la mobilisation la plus haute selon la police depuis le début du mouvement. Pour la première fois, tous les syndicats seront dans la rue, mais pas côte à côte. La CFDT, favorable au système par points, mais contre l'âge pivot à 64 ans, ne veut pas manifester dans le carré de tête avec la CGT, hostile à toute réforme. Quoi qu'il en soit, les cortèges s'annoncent très mixtes. Au-delà des cheminots, les fonctionnaires aussi sont très mobilisés, comme les avocats, les magistrats, mais également les internes, les médecins, les soignants, qui manifesteront, eux, pour davantage de moyens à l'hôpital. Enfin, les enseignants, eux, devraient être nombreux. Le SNUIPP, le principal syndicat du primaire, annonce 50% de grévistes aujourd'hui dans les écoles. Les enseignants reçus depuis la semaine dernière par Jean-Michel Jean-Michel Blanquer, mais qui sont loin d'être convaincus par les promesses du ministre de l'Éducation, Sonia Princé.
Sophie sera en grève comme 70% de ses collègues dans son lycée à Créteil. Elle est professeure documentaliste, une catégorie d'enseignants qui bénéficie de très peu de primes. Elle n'est pas du tout convaincue par les propos du ministre.
Absolument pas. Absolument pas. Ça fait quand même 9 ans que notre point d'indice est gelé. Donc tout à coup, on trouverait de l'argent pour nous réévaluer nos salaires, ça me semble peu probable. Et puis sur quelle base ? Et puis c'est absolument pas pour l'instant écrit ou gravé dans le marbre. C'est juste un propos peut-être pour calmer simplement notre mécontentement.
Pas rassurée non plus par les promesses, Isabelle enseigne en CP à Dieppe. Dans son école, ils seront moins nombreux que le 5 décembre, mais tout de même 50% à faire grève.
On nous dit par exemple qu'il y aura un âge où on ne sera plus obligé d'être en classe, on ne peut pas non plus être tous dans les bureaux. On sait bien que ce n'est pas possible puisque même en plus dans l'administration, ils ferment des postes tous les ans. Donc toutes ces promesses-là, en plus on ne peut pas y croire. Et sur la revalorisation, c'est pareil, ça fait trop longtemps qu'on attend. Et là, quand on nous parle éventuellement de revalorisation, ce serait des primes en échange de nouvelles missions. Le sous-entendu, c'est qu'on ne travaille pas encore assez. C'est vraiment difficile à vivre.
Difficile aussi d'être en grève à cette période de l'année, dit Isabelle, qui avait prévu toutes sortes d'activités avant les vacances avec ses élèves.
Sonia Princé notait pour terminer sur ce dossier que la CFDT et la CGT, ainsi que tous les autres syndicats, seront reçus demain un par un par Édouard Philippe à Matignon. C'est un nouveau coup dur pour Boeing. Le constructeur, l'avionneur américain, a finalement décidé de suspendre la production de son avion vedette, le 737 MAX, à partir de janvier prochain. Des appareils cloués au sol depuis 2 crashs mortels en mars dernier, 346 morts, mais des appareils que Boeing continuait à construire en attendant le feu vert des autorités américaines. Des milliers d'emplois sont potentiellement concernés. À Washington, Gregory Phillips.
Le 737 MAX, c'était jusqu'à ces 2 accidents le produit phare de Boeing. Près de 5000 avions commandés, à environ 120 millions de dollars l'unité, 400 en attente de livraison. Le constructeur en fabrique encore 42 par mois dans son usine de Renton, en banlieue de Seattle. Mais Boeing va donc dès janvier suspendre la production de cet appareil, et ce pour une durée indéterminée. Boeing assure qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois, mais la décision affectera évidemment les 12 000 ouvriers qui travaillent sur ce programme, ainsi que les centaines de sous-traitants qui emploient des milliers de personnes. En vérité, Boeing n'a pas vraiment le choix. Tous les 737 MAX sont interdits de vol depuis 9 mois et il n'y a pour l'heure aucun calendrier de remise en service. Le constructeur, dont l'action chutait hier de 4%, traverse la pire crise de son histoire depuis sa création il y a un peu plus d'un siècle. Avec un risque aussi pour l'économie américaine, Boeing est l'un des plus gros employeurs du pays et le premier exportateur des États-Unis. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
À l'étranger encore, le Liban, toujours sans Premier ministre et toujours sous haute tension. Les manifestants ne veulent pas voir le retour de Saad Hariri au pouvoir après sa démission en octobre. Nouvelle violence hier dans les rues de Beyrouth qui ont fait une dizaine de blessés. Les consultations parlementaires ont encore été reportées.
Il est 7h38, on en vient à ce chiffre, Sébastien, d'une cinquantaine de journalistes tués l'an dernier dans le monde.
49 journalistes tués exactement. Chiffre du rapport annuel de Reporters sans frontières, un chiffre en très nette baisse, il faut le souligner. Moitié moins de tués en 2019 que ces 2 dernières décennies. Toutefois, sur le terrain, il reste des pays où la situation ne cesse de se dégrader, comme au Mexique. Le pays le plus meurtrier pour la presse cette année, à égalité avec la Syrie, pays en guerre. Reportage dans l'état de Sinaloa de notre correspondante sur place, Alix Sardi.
À la rédaction de l'hebdomadaire d'investigation Rio 12, le souvenir de Javier Valdez plane encore. Ce journaliste qui enquêtait sur le crime organisé dans l'état de Sinaloa a été assassiné en 2017. Ici, pour informer, il faut peser chacun de ces mots, explique Ismaël Borges, rédacteur en chef de la revue.
Même un titre peut poser problème. Depuis quelques années, on doit être très prudent. En travaillant, on ne pense plus aux lecteurs en premier, mais aux trafiquants de drogue concernés.
Et la situation a continué de s'aggraver depuis la mort de Javier Valdez. C'est ce que constate Balbina Flores, représentante de Reporters sans frontières au Mexique.
Petit à petit, le Mexique cède du terrain au crime organisé. Ces zones deviennent des trous noirs de l'information. Par exemple, on nous a rapporté que dans la localité de Zihuatanejo, il n'y a plus un seul journaliste qui ose travailler. Souvent, les autorités locales corrompues sont impliquées. C'est très clair pour nous. La frontière entre autorités et crime organisé est brouillée. Et c'est terrible. Comment les citoyens peuvent-ils faire confiance aux autorités locales quand ce sont les mêmes qui font assassiner les journalistes ?
Au Mexique, plus de 90% des crimes commis contre les journalistes restent impunis. Dans l'état de Sinaloa, Alix Hardy, France Inter.
Et puis autre chiffre du rapport de RSF, le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a augmenté. En revanche, l'an dernier, 389 journalistes privés de liberté, plus 12% par rapport à 2018. Des emprisonnements surtout en Chine, en Égypte et en Arabie Saoudite.
Et une idée de sortie pour terminer, Sébastien. Le Mobilier National ouvre les portes de la Galerie des Gobelins à Paris pour la deuxième année.
Une ouverture exceptionnelle car les enfants et les parents vont pouvoir évoluer au milieu d'une vingtaine de tapisseries prestigieuses. Ils vont pouvoir se déguiser, jouer dans un décor authentique du XVIIe siècle et même construire une réplique en Lego de la tapisserie de Louis XIV visitant les Gobelins. Bref, une première, Jacqueline Pétrose.
C'est une expérience ludique dans un cadre majestueux. On navigue entre les magnifiques tapisseries dont le Colosse de Rhodes, pur chef-d'œuvre brodé de fils d'or et d'argent. On se déguise, on se maquille et on peut même ici toucher certains meubles historiques du Mobilier National. Olivier Ibanez, directeur du Mécénat.
L'idée, c'est de le découvrir, de le sentir, de le toucher. Certes, on ne touche pas les tapisseries, mais on peut s'asseoir sur un trône, même les tapis, les savonneries majestueuses qu'on va fouler aussi avec des chaises en bois doré. Donc à chaque fois, l'idée, c'est de faire participer, faire découvrir. Ici, on s'intègre totalement dans une immersion au cœur du grand siècle.
Au premier étage, dans un décor d'or et de velours rouge, une immense mosaïque de Lego est installée, reproduction de la tapisserie de Louis XIV visitant les Gobelins. Chacun y apportera sa petite brique.
Cette tapisserie a été modélisée, reproduite. Chaque enfant, chaque visiteur va pouvoir choisir un des éléments de cette tapisserie. Il va pouvoir poser cette petite pièce sur une plaque et aller les insérer dans cette grande fresque qui mesure 7 mètres sur 5, donc vraiment plus de 500 000 pièces Lego rassemblées ici dans la Galerie des Gobelins.
Les enfants peuvent aussi imaginer un nouveau mobilier pour le roi. Aux Gobelins, entre jeu et prestige, le grand siècle est à portée de main.
Voilà, Jacqueline Pétrose, Noël au Gobelin, c'est jusqu'au 5 janvier au Mobilier National à Paris.
Merci Sébastien Legénie.